Bonsoir. Bienvenue à nos nouvelles rencontres littéraires, cette fois-ci organisées autour de la littérature féminine en Corée du Sud. Nous sommes très heureux de recevoir nos cinq intervenants. C'est Monsieur Benjamin Joanneau qui va animer la rencontre. Je vais tout de suite lui passer la parole. Benjamin Joanneau est chercheur associé au Centre de recherche sur la Corée à l'EHESS. Il est aussi éditeur et traducteur, et il a fondé l'Atelier des Cahiers en 1998. Juste une précision, après que les intervenants aient fini de parler, si vous voulez réagir ou poser des questions, n'hésitez pas. Simplement, attendez que je vous passe le micro pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit entendu. Merci, à tout à l'heure.
Bonsoir, merci d'être venu ce soir pour parler et réfléchir avec nous sur la question de la littérature féminine coréenne et ce qu'elle peut nous amener à découvrir des problèmes sociétaux sur la société sud-coréenne. Donc littérature et société à travers le prisme de la femme et de la littérature féminine en particulier. Alors j'aurais aimé vous présenter les intervenants de cette table ronde. Ce soir nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Moon Jong-hee, qui est une poétesse très connue de Corée du Sud, née après la guerre, qui fait ses débuts en 1969 avec le prix littéraire Wolgak Munak, qui reçoit également des prix de journalisme, qui doit démissionner de son travail de journalisme à cause de son mariage, ce qui va la lancer dans une réflexion sur sa condition de femme. Madame Moon va aussi voyager à travers le monde, aux États-Unis, où elle est invitée à l'Université de New York, et également en Suède, à Venise. Et tous ces voyages ont nourri sa réflexion d'écrivaine et de femme. Et elle enseigne actuellement à l'Université Dongguk et à la Korea University. Viennent d'être publiés l'année dernière ce très beau recueil de poésie, Celle qui mangeait le riz froid, chez Bruno Doucet. Donc Bruno Doucet, qui est à ma droite, qui est écrivain, qui avait dirigé les éditions Seghers et qui a fondé sa propre maison d'édition afin de proposer des livres qui seraient dédiés à la poésie et aux poésies du monde. Lui-même auteur, lui-même poète, il est donc un homme complet qui a eu l'intelligence de nous présenter Moon Jong-hee en France pour la première fois, avec le travail magnifique de la traductrice Madame Kim Yeon-ja, née à Séoul, diplômée de littérature et de poésie en particulier. C'est ce qui l'a amené à se spécialiser sur la traduction de la poésie coréenne en français, la poésie de Jules Supervielle en particulier. Elle a traduit plusieurs auteurs coréens et dernièrement, Moon Jong-hee. Voilà. Et nous avons également avec nous le professeur Jean-Claude Crescenzo, qui est non seulement professeur à Aix, qui a fondé le département d'études coréennes d'Aix-Marseille, de l'Université d'Aix-Marseille, donc chercheur, mais aussi traducteur de littérature coréenne. Et depuis l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est l'année dernière, vous avez créé les éditions de Crescenzo, donc éditeur de littérature coréenne traduite en français. Il est aussi le directeur de l'excellente revue en ligne Kulmadang, qui est une revue dédiée à la littérature coréenne et qui devrait bientôt être publiée en papier, version papier en librairie, et disponible en librairie. Voilà pour les intervenants de ce soir, et je voudrais commencer par introduire brièvement la question et les problématiques de ce soir de la littérature féminine coréenne. Je voudrais commencer par rappeler que la question, tout d'abord, elle-même pourrait paraître étrange. Pourquoi parler de littérature féminine en Corée ? Alors, rappelons un contexte brièvement. Nous sommes dans une société qui est structurée par les valeurs confucianistes qui ont été bouleversées au XXe siècle avec l'arrivée de la modernité, en particulier de la modernité occidentale. Il est évident que ces valeurs, qui sont des valeurs qui prônent une séparation assez stricte de l'homme et de la femme, ces valeurs qui sont assez conservatrices, ont été, en étant bouleversées, ont bouleversé les rapports homme-femme, et la littérature n'a pu que s'en faire l'écho. Il est évident que la littérature féminine, en inventant son langage à partir de l'après-guerre, a récupéré ces questions, la question de la féminité, la question du féminisme en général, et a aussi essayé de s'en détacher. Et les nouvelles générations d'écrivaines coréennes, sud-coréennes, sont en général assez fières qu'on ne leur attache plus l'épithète de féminine et d'avoir trouvé une sorte d'universalisme, d'être tout simplement un écrivain et non plus un écrivain femme. Donc on est passé d'une littérature qui était une littérature principalement masculine, et c'est ce que je vais rappeler tout à l'heure historiquement, à une littérature féminine qui a fait entendre une voix qui avait été étouffée pendant des générations, voire des siècles, et désormais à une littérature qui essaye de dépasser le clivage homme-femme, même si celui-ci est toujours très présent, et donc cela pose problème. Donc la question que je voudrais lancer, c'est la question qui est une question méthodologique de base, c'est ne sommes-nous pas en train de créer ce soir, par exemple, un objet en le nommant, dans le sens où y a-t-il vraiment une littérature féminine coréenne ? Donc c'est une question à laquelle on va peut-être essayer de répondre ce soir. Il y a une grande différence en Corée entre la littérature écrite par les femmes, la littérature écrite sur les femmes et la littérature féministe. Et ce n'est pas nécessairement les mêmes choses. Alors, du point de vue historique, puisque je l'évoquais tout à l'heure, nous avions, dans la Corée prémoderne, une littérature qui était principalement une littérature écrite par des hommes. Cela ne voulait pas dire que les femmes ne lisaient pas, puisqu'il y avait une écriture proprement coréenne qui avait été promue à partir du XVe siècle, le Hangul, qui était pour aider les personnes du commun qui n'avaient pas la possibilité d'être éduqués dans la littérature chinoise classique, pouvoir leur permettre d'accéder au savoir, et en particulier pour les femmes. Il se trouve que cette littérature en Hangul n'a pas eu le succès escompté qu'en termes d'édition, si je ne me trompe pas, sous le royaume de Joseon, on a eu en tout, je crois, 2 livres écrits par des femmes qui ont été publiés. Il y en a eu d'autres qui ont été écrits, mais qui sont restés à l'état de manuscrits. Donc un, c'est un souvenir de les souvenirs d'une le journal d'une reine coréenne, et l'autre, si je ne me trompe pas, c'est un ouvrage de cuisine, de recettes de cuisine, qui a été édité, imprimé à la fin du 19e siècle. Donc la littérature, il y avait toute une littérature sous le royaume de Joseon pour les femmes, surtout à partir du 17e, 18e siècle, qui se développe énormément, mais c'était une littérature écrite par des hommes pour des femmes, avec un succès qui était assez énorme. Il y avait, ça pouvait même poser une problématique, le fait que nous disent certains auteurs du XVIIIe siècle que des femmes se ruinaient pour acheter des romans, mais c'était finalement des romans qui venaient réaffirmer des valeurs très traditionnelles, des valeurs conservatrices, et en fait qui venaient réaffirmer une opposition, le clivage homme-femme, qui se traduisait par une opposition Hanmun, la littérature en caractère sino-coréen en langue chinoise classique, et Hangul, la littérature écrite, ou les livres écrits plutôt, en langue vernaculaire. Donc vous voyez, on a une opposition homme-femme, et donc langue vernaculaire et langue chinoise, qui véhicule jusqu'à la fin du 19e, début du 20e siècle, également ces valeurs que j'évoquais tout à l'heure, néo-confucianistes, qui sont l'idéologie dominante, on va dire, du régime. Voilà. Le XXe siècle va bien sûr révolutionner tout cela. Alors, je vais un petit peu vite. Au XXe siècle, la modernité va briser ce clivage Hanmun-Hangul avec le développement d'une langue nationale, d'une littérature en langue nationale. Et on voit apparaître, au début du XXe siècle, les premières générations, en tout cas naissent les premières générations d'écrivaines qui ne vont pas tout de suite écrire, qui vont souvent écrire à partir des années 50. C'est la génération de Park Yong-ni, Han Mal-suk, Park Kwan-so, etc., même si certaines d'entre elles, comme Park Kwan-so, va attendre les années 70 pour commencer à écrire. Il y a également la génération d'après-guerre à laquelle appartient Madame Moon et des écrivains comme Oh Jong-hee, Chae-yoon, etc., qui vont commencer à introduire une première problématique féministe dans les thématiques de la littérature, mais aussi, et c'est très important, je crois que Madame Moon reviendra dessus, qui est la première génération éduquée en langue coréenne et non comme la génération précédente en langue japonaise, et qui va de fait, pour la première fois, écrire dans une langue qui a été la langue de l'enfance, qui a été la langue apprise à l'école. Et donc c'est une génération, comme le dit Madame Moon elle-même, une génération qui invente un langage, non seulement poétique, mais aussi littéraire. Voilà, la génération suivante c'est la génération qu'on a appelée 6-7-8, qui naît dans les années 60, elle va asseoir les féminismes en littérature. Il va y avoir en quelque sorte, pour résumer, deux grandes écoles, l'école influencée par le féminisme européen, à l'héritage de Beauvoir, mais aussi d'écrivaines comme Duras, avec une traductrice et écrivaine comme Chae-yoon, publiée chez Actes Sud en France, et beaucoup de féministes qui, elles, sont plus de l'école de l'écoféminisme américain. Voilà, donc deux écoles qui vont nous amener, d'abord une distanciation du sentimentalisme qui était un petit peu dominant dans la littérature féminine auparavant, jusque dans les années 70, et qui va aussi amener la question nouvelle du corps dans la littérature. Après, nous avons plus récemment, donc à partir des années 90-2000, jeunes générations qui, elles, vont faire passer la critique de la société, d'une société machiste, de ce clivage homme-femme, encore très présent, vers de nouvelles problématiques qui seront plus globales. On passe d'une critique de la position de l'homme et de la femme, et également du machisme des institutions et des régimes politiques. On passe de cette critique à une critique plus globale, peut-être, de la société néolibérale, du capitalisme. Donc on a une critique qui dépasse la question proprement féminine, même si elle a réintroduit grâce à cette question de l'écoféminisme. Nous avons une féminitude nouvelle qui est plus épanouie, qui est plus libérée et qui va donner une littérature qui est un mélange intéressant d'humour, de cynisme, de compassion, où l'homme lui-même est enfin réintégré. Alors je ne dis pas dans tous les auteurs, mais c'est une nouvelle tendance où il y a même des auteurs, et certains titres d'ailleurs de recueil de Madame Moon, je crois que c'était en 96, Pour les hommes, un recueil de poésie, nous montre que la femme elle-même réintègre la question de l'homme dans sa réflexion sur la féminitude, sur la littérature, sur la société. Quelle est la condition de l'homme? Voilà, ça c'est une question qui commence à poindre très récemment dans les années 2000. Et qu'on en trouve des échos dans la littérature très très contemporaine, qui commence à être traduite et publiée, en particulier par Monsieur de Crescenzo ou bien par nous à l'Atelier des Cahiers. Voilà. Alors je pense que j'ai déjà été assez long. Je voulais vous présenter quelques thèmes importants. Je vais plutôt raccourcir sur ce chapitre-là. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je voulais brièvement indiquer quelques thèmes vraiment majeurs de cette littérature féminine coréenne du second XXe siècle, puisque c'est surtout là qu'elle commence, c'est après-guerre. Le thème est évident, c'est la question de la maternité, de la féminité comme définie par rapport à la maternité, à ce qu'on appelle en anglais motherhood, qui traduit peut-être un peu mieux le concept que je veux entendre par maternité. La femme qui se définit par son rapport de mère, ce rapport mère-famille, et qui a donné lieu à ce qu'on a appelé récemment en Corée, autour de l'œuvre d'une écrivaine comme Shin Kyung-suk, qui a écrit ce best-seller dont vous avez peut-être entendu parler, « Prends soin de maman ». On a parlé du syndrome de la mère, voilà, du retour d'une super-mother, la problématique évoquée aussi par Madame Moon, d'ailleurs, c'est vraiment un thème très transversal, du rapport de la femme à sa féminitude par la maternité, qui est bien sûr quelque chose de très problématique. Avec désormais des nouvelles écrivaines qui se font le reflet de ce qu'on appelle dans la société coréenne maintenant les scandi moms, les mamans scandinaves, qui suivent le modèle d'éducation scandinave avec plus d'égalité dans l'éducation des enfants, une espèce d'égalité enfant-parent, et où la mère ne se définit plus à travers sa progéniture, et avec également le rejet de ce qu'on a appelé cette figure du pathos qui était la mère dans la société et dans la littérature coréenne jusque dans les années 80-90. Voilà, donc la question de la femme, femme-mère, femme au sein de la famille, et la question du corps et du désir, le corps comme territoire de désir, comme territoire de consommation, thème très abordé par Madame Moon et très, très bien résumé également hein, dans ses poèmes, qui est une vraie question qui traverse la littérature des 20 dernières années féminines, avec la question de l'économie des désirs. Hein. Est-ce que le couple ne serait pas un échange de commodités? Et la littérature féminine commence à critiquer la position de la femme elle-même dans la société coréenne, sud-coréenne contemporaine, en se demandant si la femme n'est pas elle aussi parfois complice de la société de consommation, agente de l'accumulation de richesses, dit-on encore. Voilà, donc des questions qui sont très politisées, très pointues, mais également très intéressantes parce qu'elles vont au-delà d'un manichéisme du homme-femme et qu'elles nous montrent une dialectique un petit peu plus complexe dans le mariage comme échange et économie de désir. Voilà. Donc la problématique du couple, bien évidemment, autre thématique classique, où placer le couple dans cette économie étrange, l'incommunicabilité, est-ce que nous sommes faits l'un pour l'autre, homme-femme, est-ce qu'il y a un dialogue possible, une rencontre possible, voilà, et toute la question de la rencontre, de la possibilité de l'amour, voilà, essayer de transformer l'homme comme compagnon et non plus comme ennemi, essayer de décoloniser l'amour. Et excusez-moi, je cite beaucoup Madame Moon, mais j'ai vraiment adoré lire ce recueil parce que je me suis dit, mais il suffit de lire le recueil et il n'y a plus besoin de faire une conférence ce soir parce que toutes les thématiques sont abordées. C'est assez extraordinaire quand on prépare une conférence, mais elle dit quelque part que l'homme est le colon il se comporte comme un colonisateur dans le couple. Voilà une très belle image qui résume très bien cette problématique du couple. Voilà, donc la question du couple et avec peut-être, pour finir sur une note positive, des réponses parfois apportées par des jeunes écrivaines comme Inare, qui nous montrent des femmes plus autonomes et qui commencent à pouvoir regarder leur partenaire comme un autre complémentaire et non plus comme un ennemi et qui nous posent la question d'une réconciliation qui est une question. Est-ce qu'il est souhaitable d'avoir une réconciliation d'ailleurs? N'est-il pas trop tôt pour se réconcilier? Donc je reviens à ma question initiale qui était n'est-il pas trop tôt pour réclamer que l'on a que pour les écrivaines femmes que l'on ne parle plus de littérature féminine mais de littérature tout court, ou faut-il continuer la lutte? Alors là je laisse la parole à nos auteurs et à nos intervenants et vous verrez qu'on a respecté le clivage homme-femme ce soir dans cette table. Et ce n'était pas fait exprès, mais voilà, c'est un reflet peut-être de ce dont nous allons parler. Je vais laisser la parole alors à peut-être à Monsieur de Crescenzo, à qui je voudrais poser une question. Là, j'ai évoqué les thématiques qui traversent la littérature contemporaine féminine. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de l'enracinement, de l'origine, d'où viennent ces thématiques, un petit peu nous mettre un éclairage sur ces questions?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Avec une déformation de l'enseignant, j'ai préparé un PowerPoint. Je sais que les étudiants aiment bien. Avec une première dérobade, c'est que je ne parlerai peut-être pas totalement de littérature féminine, mais de littérature unisexuée, parce que je me suis dit que cette division qui était proposée me paraissait bien compliquée à aborder, et donc courage fuyons, je vais parler plutôt des jeunes auteurs, avec évidemment une première prise de risque, c'est que dès lors que j'indique que je vais parler de jeune littérature, je risque normalement le foudroiement sur place. Qu'est-ce que c'est que la jeune littérature? On ne sait pas très bien, mais ça me permet au moins de la distinguer de la littérature réaliste telle que nous la connaissons et nous l'avons pratiquée jusqu'à encore récemment. Un premier point de vue sur lequel pour aborder cette question et pour situer le travail que je fais, à la fois en tant qu'enseignant, chercheur et puis éditeur maintenant, depuis quelques mois et quelques années pour la revue, c'est l'idée de, au fond, n'aborder les œuvres et de les apprécier qu'à partir du moment où je suis capable de les inscrire dans une perspective historique et notamment une perspective sociale. Et donc je me suis appuyé sur une citation d'un philosophe un peu tombé dans l'oubli, mais qui me paraissait très bien résumer le propos que je voulais tenir, de pouvoir apprécier des œuvres littéraires en les réincluant dans un contexte qui est le leur. En effet, la littérature coréenne, comme toutes les littératures, a terriblement besoin d'être contextualisée si on veut en comprendre quelque chose. Évidemment, comme j'ai les cheveux blancs, j'ai souvent des citations qui datent un peu, pour vous peut-être, mais ça fait partie des auteurs qui nous ont un peu structurés, qui ont structuré notre pensée, notamment la mienne, autour des questions de simulacre, simulation, d'air du vide et de montée de l'insignifiance, cher Castoriadis. Et si je parle de Baudrillard ce soir avec cette idée de refoulement, c'est parce que, bien évidemment, il me semble qu'en grande partie, ça a structuré la littérature coréenne classique. Et ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, c'est à ce que j'appelle, comme d'autres, il n'y a pas d'exclusivité, une espèce de conscience de soi. Et de partir de la conscience de soi comme première hypothèse de travail pour aller vers une autre, que j'ai appelé la figure de l'ennemi, et vous allez rapidement comprendre ce que je veux signifier par là. Je galope parce que je crois que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, pour éviter l'effet inventaire et d'être amené à resituer historiquement cette littérature, je prends deux dates précises sur lesquelles à peu près tous les critiques littéraires et chercheurs sont d'accord. C'est les dates de 1987 et la date de 1997. L'une annonce la future démocratie, j'y mettrai des guillemets, et puis l'autre annonce la fin du rêve parce que, après la société d'abondance, on découvre la crise asiatique de 1997. Mais l'intérêt de situer cette entre-deux dates, c'est que nous assistons petit à petit à une littérature qui est en train de se libérer de l'idée de nation telle qu'elle a été portée dans les temps anciens avec les auteurs que vous connaissez, qui on n'a pas cité les hommes, on a cité les femmes, mais les hommes sont de la partie également, je ne vais pas procéder à l'inventaire. Et dans cette littérature, accrochée à l'idée de nation, évidemment, la question de la mémoire est terriblement importante. Je crois qu'elle borde et qu'elle anime toute cette littérature qui part des années 60 pour l'avènement de la dictature jusqu'aux années 90, l'avènement de la démocratie. Et bien entendu, c'est à l'intérieur de cette partie-là que vont arriver des nouvelles approches stylistiques, au rang desquelles je mets par exemple un auteur comme Inson, que je viens de publier, mais bien entendu, il n'est pas le seul. Inson, dans les années 30, avait déjà commencé à renouveler un peu le langage de ce point de vue. J'aime bien parler d'un monde sans limite pour faire référence à un psychanalyste qui s'appelle Christopher Lasch et puis à Melman, à force de dire Melman, je perds son prénom, parce qu'ils ont énormément travaillé sur, selon eux, tel que je l'ai redit, et fort mal sans doute, l'avènement d'une nouvelle structure psychique sur laquelle la conjugaison des sciences de la démocratie et du libéralisme économique avait amené en quelque sorte une nouvelle conscience de l'autre, avec un A majuscule, tout autant que sa propre intervention. Dit autrement, ces trois éléments combinés font apparaître chez un certain nombre d'auteurs, notamment les auteurs coréens, puisque c'est à eux qu'on s'intéresse, l'idée que, au fond, nous passons d'une société qui était une société névrosée, qui refoulait des désirs, à une société de sa libre expression, voire même à son exhibition. Et cette libre expression du désir que l'on constate aujourd'hui dans les textes des jeunes auteurs est très intéressante parce que, de l'autre côté, l'offre de satisfaction des désirs est terriblement abondante. Benjamin a parlé de cette question du désir. Lorsqu'on lit le texte des jeunes auteurs aujourd'hui, qu'ils soient femmes ou hommes d'ailleurs, même si je publie plutôt des femmes actuellement, eh bien on s'aperçoit que c'est une question qui est extrêmement prégnante. Et la question subséquente, c'est quand on a formulé des désirs, comment peut-on ensuite les satisfaire? Et là, il y a un élément qui me paraît fondamental pour comprendre les jeunes auteurs, c'est que nous étions, dans les temps anciens ou précédents, dans des formes du désir canalisées par le confucianisme. Ce confucianisme étant entré dans un processus d'affaiblissement généralisé, même s'il est encore extrêmement prégnant, j'observe par là qu'avec les jeunes auteurs, il y a une espèce de desserrement de la contrainte au profit de ce que j'appelle, moi, une gestion individuelle des institutions classiques, c'est-à-dire, en gros, pour faire plus simple, chaque auteur revisite l'ensemble de des institutions un peu à sa manière, c'est-à-dire l'émergence, au fond, de ce qu'on a appelé la conscience de soi, et qui se structure notamment par le fait qu'il n'y a plus de discours. Alors, pour les plus jeunes, peut-être la fin des grands récits, ça ne vous dira rien. Les autres savent à qui je fais allusion. La fin des grands récits, eh bien, c'est aussi l'idée que, comme il n'y a pas de perspective collective, globale, voire maintenant communautaire en Corée, eh bien, c'est l'émergence d'un individu qui tente de s'en tirer seul et donc de produire des textes à partir d'une sphère d'intervention personnelle qu'on peut qualifier parfois même de terriblement limitée. Il y a par exemple une auteure comme Kim Hee-ran qui a été publiée maintenant pour la première fois en France. Eh bien, quand on lit ses textes, on s'aperçoit que le périmètre de définition est très resserré autour de justement cette conscience de soi. Un bref saut dans le passé nous montrerait que les anciens auteurs, au contraire, abordaient la question d'une manière beaucoup plus collective. Je me suis appuyé sur le Clésio juste pour dire qu'au fond, quand lui regarde en tout cas l'imaginaire des jeunes auteurs, il s'aperçoit qu'il y a une espèce de filiation tout à fait naturelle entre les anciens auteurs, ceux que j'appelle les auteurs des années de souffrance, avec les jeunes auteurs aujourd'hui qui sont plutôt ceux de la société d'abondance. Cette figure de l'ennemi, elle a surgi à partir du moment où je me suis dit, tiens, entre les années 60 et les années 90, en Corée, la littérature est fortement adossée à l'idée d'un ennemi, qu'il soit l'occupant japonais, le militaire dictateur, le coréen du Nord, etc. Et à partir du moment où ces ennemis-là disparaissent, que reste-t-il ? Eh bien, ce qui reste, ce sont peut-être des figures de l'ennemi qui remplacent l'ennemi en tant que tel. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a un intérêt à essayer de vérifier si cette idée d'ennemi qui était précédemment très présent dans la littérature coréenne se change et se modifie avec les jeunes auteurs. J'ai mis là ici quelques intérêts qu'on peut avoir à trouver des ennemis autour de soi. On va passer sur le bon, sinon j'aurai jamais assez de temps, pour me demander si, en temps de paix, quels étaient ces ennemis, est-ce qu'ils avaient changé de visage. Et quand on regarde les textes des jeunes auteurs, on s'aperçoit que les items que j'ai mis sur cette diapo sont terriblement présents. Et ils sont présents au point qu'ils sont traités non plus en tant que phénomène de société, mais presque comme agents à combattre. Ce que je commence à dire, c'est qu'au fond, ce qui va caractériser l'émergence de cette jeune littérature, globalement des auteurs qui ont moins de 30 ans, moins de 35 ans, ce sont des éléments qui sont extrêmement proches de ce qu'on a tout à l'heure, ce que j'ai nommé la conscience de soi. Alors que les auteurs précédents avaient tendance à former une littérature de la nation, ces jeunes auteurs qui n'ont pas connu ces années de guerre, ces années de difficultés, travaillent, eux, plutôt autour de ce type d'items. Voici, par exemple, dans un certain nombre d'œuvres, en essayant de travailler sur ce qui obsède un peu les jeunes auteurs, quelques items qui permettent de se retrouver. Évidemment, ils ne sont pas du tout exhaustifs, mais ça permet de se repérer un peu parmi ces jeunes auteurs. Bon, à part Kim Yeon-soo, je les publierai tous dans les mois à venir. Par exemple, dans une nouvelle qui s'appelle Castella, de Castella, donc en français, de Pan Mingyu, cette façon d'aborder le père, par exemple, il le dit dans les quatre dernières phrases de cette diapo, « Le père est une affaire compliquée parce qu'il est difficile de choisir s'il s'agit de la catégorie du bien ou de la catégorie du mal. Tout le monde dit que le père est important, mais le mien faisait partie des maux de ce monde. » Il va de soi qu'on n'a jamais lu de choses pareilles, même si de temps en temps, dans les romans de Lee Chang-jun, par exemple, on retrouve cette espèce d'écornement de l'image du père. Mais quand on lit Pan Mingyu ou Kim Hee-ran, ne lisez pas tout, vous allez tomber. pour montrer ici comment elle, dans une de ses nouvelles, elle parle du père, mais c'est la diapo d'après, je me suis trompé d'ordre. Je voulais montrer ici comment, quand elle aborde les questions de la consommation, alors que vous savez, il y a encore eu une consommation absolument effrénée. On consomme le jour et la nuit en Corée et en toute liberté, en libérant toutes les pulsions possibles autour de ces questions, eh bien, elle n'en nommait pas moins de pointer en quoi cette consommation représente une forme de contrôle social. Et on peut lire dans un certain nombre de textes, on trouvera difficilement ce type de point de vue, puisqu'elle dit qu'au fond, au fur et à mesure de tous les produits qu'elle achète, elle se retrouve complètement étiquetée, sa vie est mise à nu, elle est complètement suivie par la petite supérette du coin qui est ouverte 24 heures sur 24. Je vais passer pour un Yuju. Voilà par exemple pour Kim Il-han comment elle parle de ce père ennemi. Lorsqu'elle rentrait vers 10 heures du soir, elle ne voyait que le torse de son père. Il est allongé toute la journée, il est au chômage, il a fait de mauvaises affaires et toute la journée, il regarde la télé. Et elle conclut en disant, elle pensa qu'il n'avait peut-être plus de jambes car elle n'avait pas vu son père depuis longtemps. Là encore, on s'aperçoit que cette manière d'aborder la famille chez Kim Il-han dans ce roman, dans ce recueil qui s'appelle « Cours, papa, cours », et la façon d'aborder le père est complètement inédite. Et je me suis dit, on a là, tiens, une jolie image du père. J'ai plus beaucoup de temps, non, Benjamin ? Plus trop, on va dire. Alors, je cours. Kim Sagwa, c'est une jeune auteure, elle a 28 ans. Son roman a fait l'effet d'une petite bombe en Corée. Et elle aborde les questions des Hagwon, c'est-à-dire les instituts privés, et parle de l'éducation coréenne comme jamais personne n'en a parlé. C'est un roman d'une terrible violence qu'on est en train de traduire. On va le publier au mois de juin. Et là, une fois de plus, dans cette vision de l'éducation considérée comme un ennemi ou une ennemie, elle dit des choses absolument terribles. Effectivement, je vais aller vers la conclusion puisque j'ai plus de temps. Ces ennemis, où sont-ils ? Eh bien, ils sont un peu partout. Évidemment, vous avez rapidement compris, il ne s'agit pas d'ennemis réels, qu'il s'agit d'ennemis qui se sont glissés dans ce qu'on pourrait appeler l'espace public, qui sont autant dans le monde de la consommation ou du travail que dans les disparités sociales ou encore dans la crise d'identité qui est en train de traverser une grande partie de la jeunesse coréenne. J'avais prévu de conclure sur un poème de Baudelaire qui aborde lui aussi le visage de l'ennemi à défaut de la figure de l'ennemi pour signaler comment, si on veut, de mon point de vue, comprendre ce qui se passe chez les jeunes auteurs, aux alentours de la trentaine d'années, on peut dire voici les trois éléments qui me paraissent marquer fortement leur approche esthétique. D'une part, le clivage qui les saisit complètement entre le désir de mémoire et le désir d'oubli. Il faut se souvenir de ce qu'a été la Corée pour eux, mais en même temps, on ne peut pas se souvenir de ce qu'on n'a pas vécu, et donc il faut oublier pour pouvoir tourner la page. Ils se sentent coupables, quand je discute avec ces auteurs-là, ils se sentent coupables de n'avoir connu ni la souffrance, ni la création de l'abondance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé à l'effort de modernisation de la Corée, ils n'en sont que les jouisseurs, ils n'en sont en quelque sorte que les testataires. Et il y a cette espèce d'ambivalence où à la fois ils sont plongés dans cette consommation avec le plus grand plaisir et en même temps ne peuvent pas se départir de l'idée qu'ils n'y sont au fond pour rien. Et en guise de conclusion maladroite, parce que ce n'est pas la dernière diapo, tant pis, cette nécessité de l'oubli me paraît être la condition préalable de l'avènement de soi en Corée. Je suis à peu près persuadé, d'ici 2 ans, on aura, ce qui n'était pas encore arrivé en France jusqu'à maintenant, une vingtaine d'ouvrages de jeunes auteurs coréens qui seront publiés. Et bien entendu, pour tous ceux qui accèdent à la littérature coréenne sans tenir compte du passé, de la littérature réaliste ou autre, eh bien on va découvrir très probablement une Corée qui ressemble au pays que vous connaissez tous actuellement. En vous demandant de pardonner ma maladresse pour avoir mal calibré mon propos.
Non, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Mais, avant de donner la parole à Bruno Doucet, j'aurais aimé vous poser une brève question pour une brève réponse, parce qu'après, je pense qu'on développera peut-être en discussion. Pour apporter sur notre sujet, et comme je l'ai dit en introduction, c'est une thématique qui fait problème elle-même. Peut-on, doit-on parler de littérature féminine? Mais vous nous avez donné des clés de compréhension, je crois, très importantes et très intéressantes dans cette présentation. Est-ce que vous pourriez juste nous préciser s'il y a ou non, selon vous, dans les jeunes auteurs que vous présentiez, une différence entre la littérature produite par les hommes et celle produite par les femmes sur ces thématiques, ou est-ce que vous voyez que justement cette thématique ne fait plus clivage, ne fait plus sens? Pour revenir au thème de notre rencontre, avant d'aller poser la question à une écrivaine coréenne.
Refusant d'être sévèrement battu par les auteurs féminins, j'évite de leur poser cette question parce qu'elles y répondent préalablement. Non, aujourd'hui, il n'y a plus ce clivage qui est abordé. Et là, le statut de l'auteur féminin en train d'écrire ne se pose même plus dans ces termes-là pour eux.
Je posais la question concernant la différence des thématiques. Est-ce qu'il y a des thématiques différentes selon qui seraient, où il y aurait un clivage selon les sexes? Bien évidemment que ce n'est plus un problème pour une femme d'écrire, mais est-ce que les thématiques sont différentes?
Non, sur les thématiques, non, il n'y a pas de différence. Je parlais du statut de l'auteur.
D'accord, du statut de l'auteur, très bien. Évidemment. Mais alors pourquoi vous publiez principalement des auteurs femmes? Est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que c'est parce que c'est surtout ces auteurs-là qui sont intéressantes actuellement?
Alors, il y a probablement d'abord la conjonction du hasard et des rencontres au cours de toutes ces années. Et puis, de notre côté, il est vrai qu'il semblerait qu'il y ait quand même aujourd'hui bien plus d'auteurs féminines proposées par les éditeurs coréens que d'auteurs masculins. Ceci posé, on va quand même publier Kim Jong-hyuk, Jang Myung-moon, Lee Sang-woo, qui sont des auteurs masculins. Mais il est vrai qu'il y a, de la part des auteurs féminins, une présence complètement inédite. Par exemple, sur les questions de réflexion sur la notion même d'écriture, on le trouve bien plus fort, ce point de vue, chez des auteurs comme Han Yu-ju, par exemple, ou Han Gang, que chez les auteurs masculins, à l'exception peut-être de Pan Ming-yu, de mon point de vue.
Très bien, je vous remercie, et ça va nous permettre de faire une transition et de donner la parole à un autre éditeur qui va nous proposer, à qui je voudrais plutôt poser la question de pourquoi Moon Chung-hee, pourquoi vous qui êtes en tant que poète et éditeur, pourquoi avoir décidé, alors je crois que c'est le premier auteur coréen que vous publiez.
Oui, absolument.
Pourquoi cette rencontre? Alors je demande à la fois à l'auteur et à l'éditeur.
Alors, d'abord, merci. Je viens d'entendre des choses absolument passionnantes et j'ai appris beaucoup de choses ce soir que je ne savais pas. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la littérature, ni même de la poésie coréenne. C'est dire que le fait d'accueillir dans ma jeune maison d'édition une auteure coréenne relève de la rencontre, d'une rencontre forte. N'oubliez pas que l'éditeur, c'est d'abord quelqu'un qui choisit et donc qui passe son temps à refuser. Nous recevons des centaines et milliers de manuscrits, tout le monde veut être publié, et nous passons nos journées à dire non. Lorsque nous disons oui, les choses ont forcément une très grande valeur. Alors, pourquoi avoir publié Moon Chung-hee? D'abord parce que sa traductrice, Eun Ji-ha Kim, me l'a fait découvrir. Sans elle, le livre que j'ai entre les mains n'aurait probablement jamais vu le jour. Donc elle m'a fait découvrir ces textes, et au fond, pour l'éditeur, la découverte d'une littérature qu'il ne connaît pas, c'est une expérience de l'altérité. Mais on se rend vite compte que, découvrant ce qui est autre, on se pense aussi soi-même comme un autre. Je pense que c'est le propre de la littérature et en particulier de la poésie, se penser soi-même comme un autre, et l'on retrouve dans cet horizon lointain qu'est la littérature, une littérature venue d'ailleurs, des préoccupations qui sont les nôtres et des questionnements ou des réponses aux questionnements que nous pouvons avoir. Alors, ce que je vais vous dire très brièvement, c'est de quelle manière la poésie de Moon Chung-hee, que j'ai découverte il y a à peu près un an et demi, est entrée en étroite synergie avec les valeurs que je tente de porter, de défendre dans cette jeune maison d'édition. Alors, je ne prendrai que trois points. Le premier est très simple. J'ai créé cette maison d'édition exclusivement vouée à la poésie avec l'objectif de faire découvrir aux lecteurs, français et étrangers, les richesses insoupçonnées des poésies du monde. À l'heure de la mondialisation, on constate que, finalement, la diversité culturelle est parfois extrêmement malmenée et qu'il y a quantité de territoires dont nous connaissons mal la littérature. Par exemple, je prends un exemple très simple, très peu de Français savent, par exemple, que dans certains territoires de l'outre-mer français, comme par exemple Wallis et Futuna dans le Pacifique Sud, aucun livre n'a jamais été publié, personne ne le sait. Donc, faire découvrir les richesses insoupçonnées des poésies du monde, et puis rappeler que la poésie est aussi au corps à corps avec l'histoire, défendre une poésie qui ne vend pas ses ailes à la raison d'État et qui ne renonce pas à dire le monde dans lequel nous sommes. Je fais partie de ces écrivains et de ces éditeurs qui refusent de faire entrer la littérature dans un laboratoire d'expérimentation langagier, linguistique, esthétique, considérant au contraire que la littérature doit être en prise directe avec la vie, ici et maintenant. Et rien ne m'agace plus que d'entendre un écrivain me dire qu'il écrit pour des lecteurs qui naîtront en 2050 et qu'il pense finalement que son destin posthume est plus important que sa vie présente, parce que je considère au contraire que le sourire du lecteur qui est en face de moi est plus important que la pluralité des lectures possibles post-mortem. Voilà, nous sommes ici, maintenant, et donc la littérature, je crois, prend tout son sens lorsqu'elle est au bouche à bouche, au corps à corps avec la vie des hommes et des femmes qui peuvent la rencontrer. J'ajoute aussi ceci, c'est que l'éditeur de poésie ne fait jamais que de donner la demi-vie de la littérature en publiant un livre. Ça, ce n'est que la demi-vie de la poésie de Munchung Yi. L'autre demi-vie passe par la rencontre vivante avec un public. La poésie est née de l'oralité, d'une oralité ancestrale, primitive, et il est indispensable à mes yeux de restituer cette part d'oralité dans des rencontres vivante avec le public. C'est la raison pour laquelle, à peine le livre publié, nous avons souhaité faire venir Munchung Yi en France pour qu'elle puisse aller à la rencontre d'un lectorat qu'elle est en train de créer. Le lecteur, c'est une invention de l'auteur, toujours. Le premier travail d'un écrivain, c'est de créer, de constituer un lectorat. C'est la première chose que nous avons à faire. Donc cette rencontre, elle est l'orée d'un pays fertile, sans lequel, à mon sens, la littérature reste une affaire de solitude à peine partagée. Troisième point qui me semble tout à fait important et qui est, j'allais dire, à l'origine de mon désir de publier ce livre, c'est évidemment la question du féminisme. J'ai découvert une littérature à travers cette poésie de Munchung Yi extrêmement forte, ancrée dans un quotidien qui est celui de la femme coréenne, mais porteur de valeurs universelles. Il suffit de feuilleter le livre, de regarder le titre de ses poèmes pour être frappé par la manière dont cet auteur prend le parti des choses les plus simples de l'existence. Le petit chant de la cuisine, l'oreiller, l'ongle. L'ongle, c'est l'ongle d'une vieille mère octogénaire que le jeu du poème est en train de couper. La graine de soja, en épluchant les poireaux, en préparant la cuisine. Et puis le corps, vous l'avez dit il y a un instant, est très présent dans cette poésie. Chant d'un corps nu, les seins, tumeurs, poils du pubis, un hôpital en hiver. Le corps fait de désir, mais le corps également fait de souffrance. Alors deux choses m'arrêtent concernant ce troisième point. C'est d'abord l'érotisme comme possibilité d'émancipation de la femme, l'érotisme comme possibilité d'émancipation littéraire. Il y a dans cette poésie un érotisme qui est extrêmement présent et qui me fait penser, par exemple, à celui des femmes haïtiennes dans la Caraïbe. J'avais travaillé pendant pas mal de temps sur une anthologie de la poésie féminine haïtienne et je retrouve là des voisinages extrêmement forts. Et puis, évidemment, la deuxième chose importante à mes yeux, c'est ce parti pris des choses simples, cette façon qu'elle a de donner la parole aux réalités les laissées pour compte, aux réalités silencieuses, un peu à la manière du poète français Francis Ponge, qui a pris le parti des choses en lui accordant un compte tenu des mots. La formule de Ponge était celle-ci, prendre le parti des choses, compte tenu des mots. C'est là que le rapprochement s'arrête, puisqu'avec Madame Moon, il ne s'agit pas de rendre compte de la réalité d'un objet par l'épaisseur du langage, mais au contraire de transfigurer cette réalité par la poésie, de sorte que, par exemple, cet ongle qu'elle découpe, cet ongle découpé à une vieille mère octogénaire devient une réflexion quasiment métaphysique sur la vie des êtres humains. Voilà, je termine en vous disant que d'autres aspects m'ont intéressé de manière peut-être un peu plus marginale, mais ce sont des aspects que j'ai recueillis en lisant le texte que nous publions à la fin de cet ouvrage, un texte intitulé « Ma poésie, mon corps ». Et je relève dans ce texte de réflexion qui a été prononcé à l'université de Berkeley il y a quelques années lorsque Madame Moon était invitée à parler de sa poésie. Trois idées. D'abord, elle défend l'idée qu'elle est attachée à une poétique de l'inachèvement. Alors, je crois que cela, je le laisse à votre sagacité, mais je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui fait extrêmement sens. Elle considère également que la poésie peut être liée à une dimension chamanique. Elle l'explique en rappelant que dans son enfance, dans le village où elle est née au sud de la Corée, eh bien, il y avait dans chaque village des pleureuses qui venaient escorter les familles en deuil, et pleurer devant le défunt, que cette tradition s'est perdue, mais que le rôle du poète est aujourd'hui de faire entendre cette voix de la consolation universelle. Et puis, c'est un corollaire de ce second point, elle considère que la poésie doit prendre pleinement sa place dans un monde en crise. Elle puise aux racines confucéennes pour le dire, puisque elle cite Confucius, notamment dans ses entretiens, qui écrit ceci, « Si le pays est malheureux, alors les poètes sont heureux. » Et elle ajoute, « Cela signifie que c'est une chance pour les poètes de vivre dans une société à problème, remplie de contradictions et d'événements tragiques. Autrement dit, née dans un pays plein de problèmes, je suis une poétesse qui jouit paradoxalement du bonheur d'intégrer ces matières fertiles dans ma poésie. » Voilà, c'est extrêmement proche de ce que nous disons au jour le jour et que nous tentons de défendre.
Merci beaucoup Bruno Doucet et je suis sensible au fait que, de même que Jean-Claude, la question du désir a traversé votre présentation parce que je crois que c'est le fil rouge de ce soir finalement, je m'en rends compte. C'est la question que je voulais me tourner vers la traductrice de Madame Moon, Madame Kim Hyun-ja, et lui poser une question qui revient aussi sous une certaine forme à cette question du désir, qui est un peu similaire finalement à celle que je vous ai posée, c'est-à-dire vous parliez de l'importance pour un auteur d'aller vers son public, de se créer son public, qui, elle aussi, répond à un désir de rencontre, un désir de partage par ce médium particulier qui est le livre. Et je voulais poser la question à Madame Kim concernant ce désir qu'elle a eu de traduire Madame Moon. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a attiré pour vous, spécialiste de poésie, coréenne vivant en France, francophone, vous avez traduit d'autres recueils de poésie, certains qui étaient écrits par des hommes, qu'est-ce qui vous a donné ce désir de faire découvrir, d'être un passeur de mots entre la Corée et la France? Pourquoi Madame Moon? Quel est justement ce jeu du désir qui est derrière cet ouvrage?
Ah, oui. Ça fait déjà à peu près 6 ans que j'ai rencontré Madame Moon à Séoul dans un forum des poètes qui venaient de l'Asie. Hein. Et donc j'ai fait sa rencontre et puis j'ai lu, je découvrais aussi comme ça ses recueils. Et là tout de suite, ce qui m'a surtout attirée, c'était... c'était cette posture d'une femme qui oscille sans arrêt entre deux mondes. Un monde imprégné des valeurs traditionnelles et puis l'autre où elle lutte férocement hein, pour acquérir un espace de liberté. Et donc, ces contradictions... Et ça m'a tout de suite parlé en tant que femme, enfin oui, coréenne, mais enfin qui vit et puis qui vit aussi sa vie conjugale. C'était quelque chose que tu pouvais vraiment partager, hein, dont je pouvais partager la complicité. Et donc voilà, je me suis dit, c'est ça peut-être le... Parce que je pense que chaque pays a son propre féminisme. Dans ce sens-là, c'est vraiment un féminisme coréen. Il ne s'agit pas des Américaines, peut-être, qui divorcent facilement, ou enfin même toutes ces femmes occidentales, la divorce facile, l'abandon des enfants, ou je ne sais pas, domicile conjugal, l'abandon de domicile conjugal facile. Ce n'était pas du tout ça, c'est que vraiment, il y a la souffrance en même temps. Toujours, elle lutte pour sa propre... un territoire bien à elle. Et puis, même au sein de ce couple qui n'est pas toujours si évident, elle, par l'acte d'écrire, elle obtient cette liberté. Bien sûr, en lisant ses poèmes, bon, il y a des scènes vraiment, comment dire, banales, qui n'ont pas l'air vraiment... vraiment grave, tout ça, mais au fond, pour une femme, poétesse, pour une poète coréenne, déjà parler de sa vie privée dans sa poésie avec une telle sincérité, avec une telle force, j'ai été tout de suite conquise. Voilà. Donc j'ai voulu la traduire. Et j'ai voulu faire connaître aussi en France. Et puis finalement, je vois que il y a beaucoup de lecteurs français qui apprécient, qui sont très touchés par sa poésie. Donc elle et moi, nous sommes, et Pluno Doucet, nous sommes très très heureux de cet écho en France.
Très bien, merci. Effectivement, je crois que la lecture du recueil que vous avez traduit et publié nous montre cet oscillement entre une tentation de tradition, de revenir vers une formule plus classique, et également l'envie d'inventer. Et c'est très intéressant parce que c'est la féminité qui est une question ouverte, la littérature qui n'est pas là pour répondre ou pour proposer des questions sociétales, qui est là comme miroir au contraire. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui ressort beaucoup quand on lit. En plus, c'est un recueil, c'est une anthologie qui traverse une œuvre sur 30-40 ans. Donc cela permet de voir effectivement le parcours d'une femme. Alors je vais me tourner vers Madame Moon. Et toujours avec cette question du désir, je tire cette phrase du recueil qui présente, Madame Moon, qui présente l'écriture comme l'autre nom du désir. Voilà une très jolie phrase. Et j'aurais aimé savoir comment Madame Moon articulait ce désir, cette féminité qui est la sienne, et le travail de l'écriture.
Voilà. Comme elle a préparé un petit texte, et donc elle va répondre à cette question en lisant son texte.
Oui. 미래를 기다리는 다산의 처녀.
Alors elle a intitulé ce texte une vierge multipare tournée vers l'avenir.
신은 미완을 전제로 한 언어 예술입니다. 신은 자라나는 산입니다. 땀 흘려 올라가면 산의 높이는 더욱 높아져 있습니다. 결국 시인은 정해진 위대한 실패를 향해 자꾸 올라가고 있는 존재입니다.
La poésie est un art du langage qui présuppose l'inachèvement. La poésie est une montagne qui s'accroît sans cesse. Quand on croit arriver au sommet, tout couvert de sueur, on découvre qu'il est encore plus haut. En somme, le poète est un être qui poursuit sans relâche une escalade vers un magnifique échec prédestiné.
신은 사람의 몸처럼 아름다움과 슬픔과 욕망을 지닌 한 송이 슬픈 꽃이요 아름다운 길입니다. 나의 몸이며 나의 길인 나의 시가 화살처럼 날아가 당신의 가슴에 황홀한 전율로 꽂히기를 바랍니다.
La poésie, tout comme le corps humain, est une fleur pourvue de beauté, de tristesse, de désir, et elle est aussi un chemin. Je souhaite que ma poésie, qui est le corps et le chemin, vole comme une flèche pour atteindre dans un frémissement votre cœur.
나는 한국이 일본의 식민지에서 해방된 직후 남쪽의 작은 마을에서 태어났습니다. 세 살 때 한국 전쟁을 겪었고 그 후에 오늘까지 남과 북으로 분단된 조국에서 살고 있습니다.
Je suis né dans un petit village au sud de la Corée juste après la libération de l'occupation colonialiste japonaise. J'avais 3 ans quand éclata la guerre fratricide de Corée. Depuis lors, je vis dans un pays divisé en deux, le nord et le sud.
그 중에도 다행인 것은 나는 전 세대가 일본어로 자신을 표현했던 것과는 달리 한국어로 나를 표현하며 자란 첫 세대라는 점입니다. 또한 어린 시절 우리들의 장난감은 전쟁이 남기고 간 수류탄과 탄피였을 정도로 모두가 가난했지만 나의 부친은 지방의 토호였고 열린 사고의 소유자였기에 딸인 나에게도 차별이 없이 좋은 교육의 기회를 부여했다는 점입니다.
Si la génération précédente a dû s'exprimer en langue japonaise, je suis de la première génération qui a été éduquée dans sa langue maternelle. Dans mon enfance, je jouais avec des grenades et des douilles vides, vestiges de la guerre. Je voyais partout les misères. Mon père, grand propriétaire terrien à l'esprit ouvert, m'a offert, heureusement, la meilleure éducation, bien que je sois née fille.
8살 때인가 할머니가 돌아가셨습니다. 나는 그때 처음으로 인간이 죽는다는 것을 알았습니다. 장례는 8일 동안 계속되었는데 그때 곡비라는 노비를 처음 보았습니다. 곡비는 무당의 일정으로 슬픈 유가족들을 대신해서 울음을 대신 울어주는 울음 전문가였습니다. 곡비가 어찌나 슬프게 우는지 어린 나는 물론 온 마을 사람들이 구슬피 울었던 기억이 아직도 생생합니다.
Lorsque j'avais 8 ans, ma grand-mère est décédée. Pour la première fois depuis ma naissance, j'ai pris conscience que nous mourons. Les rites des funérailles ont duré 8 jours et j'ai vu pour la première fois une pleureuse. La pleureuse était une sorte de chamane. C'était une spécialiste qui pleurait à la place de la famille d'un défunt. Les pleurs de cette femme étaient si tristes que j'ai pleuré moi aussi avec tous les villageois. Je m'en souviens encore très bien.
나는 그 후 이 곡비가 시인이 아닐까 하는 생각을 했었습니다. 곡비는 사람들의 슬픔과 비극을 대신 울어줌으로써 큰 위로를 주고 인간에게서 슬픔과 고통을 끌어내어 그 울음의 힘이 신의 경지에까지 닿게 하는 그런 존재라는 생각이 들기도 했습니다.
Depuis, je me suis demandé si cette pleureuse ne serait pas aussi poète. La pleureuse console les gens en exhalant la tristesse et le drame à leur place. J'ai même pensé que cette personne, en pleurant la tristesse et la souffrance des gens à leur place, atteignait un état divin par la force de ses pleurs.
13살 때 부모를 떠나서 혼자 큰 도시로 유학을 떠나왔습니다. 해가 지면 고향이 그립고 외로워 속으로 많이 울었습니다. 그리고 나도 몰래 혼자 무언가를 썼는데 선생님들께서 그것이 바로 시라고 칭찬을 하시면서 상을 주었습니다. 그것이 바로 시라고 했습니다.
J'ai quitté mes parents à l'âge de 13 ans pour poursuivre tout seul mes études dans un établissement d'une grande ville. Entre chiens et loups, j'étais nostalgique de mon pays natal. À ces moments, je pleurais intérieurement et j'écrivais quelque chose. Mon professeur me faisait des compliments pour ses écrits et m'a donné une récompense. On disait que c'était ça, la poésie.
나는 그렇게 시를 써서 고교 시절에는 많은 문학상을 탔고 한국 최초로 여자 고등학교 학생으로는 시집을 펴내어 대단한 화제를 모으기도 했지요. 그리고 시 특기생으로 대학의 특별 전형 입학했습니다.
Ainsi, j'ai commencé à écrire des poèmes et j'ai reçu beaucoup de prix alors que j'étais lycéenne. J'ai été la première lycéenne à publier un recueil de poésie en Corée. Cela a fait du bruit à l'époque. Je suis entrée à l'université comme boursière, sélectionnée pour la poésie.
그러나 나의 대학 시절은 군사혁명 이후에 독재의 부당함에 맞서서 싸우는 학생 시위로 매 학기마다 휴교를 당하지 않으면 안 되었습니다. 나는 인간의 자유와 존엄에 대해서 깊이 고민을 했고 어떻게 살 것인가라는 본질적 문제를 스스로에게 물었습니다.
Cependant, mes études universitaires étaient très perturbées par de fréquentes fermetures de l'établissement dues à des manifestations étudiantes contre le régime dictatorial du président Park Chung-hee. J'ai beaucoup réfléchi alors sur la liberté et la dignité de l'homme et je me suis posé la question fondamentale, comment doit-on vivre?
그 후 곧 결혼을 하여 한 남자의 아내가 되었는데 결혼은 여성에게 매우 불리한 한국 전통 사회의 관습의 부당함을 나에게 현실로 일깨워 주었습니다.
Après mes études universitaires, je me suis vite mariée. Le mariage m'a éclairé dans sa réalité sur l'injustice des coutumes de la société traditionnelle trop défavorable aux femmes.
나는 남성 중심의 관습과 편견에 맞서게 되었고 진정한 사랑과 개성과 생명의 문제를 더욱 깊이 생각하게 되었습니다. 그 후 나는 많은 페미니즘적인 시를 썼습니다.
J'ai été amenée à m'opposer à la tradition et aux préjugés machistes. Et j'ai réfléchi plus en profondeur sur l'amour sincère, l'individualité et la question de la vie. Depuis, j'ai écrit beaucoup de poèmes empreints de féminisme.
나는 프랑스의 잔다르크처럼 자유를 부르짖다 감옥에서 죽은 한국 식민지 시대의 17세의 소녀 유관순의 자유혼을 서사시로 썼고 한국의 설화에 나오는 눈먼 목수 도미를 통해 왕, 즉 절대 권력을 가진 자가 선량한 백성의 눈을 빼버리는 권력의 폭력 문제를 시극으로 써서 우회적으로 불의를 고발하기도 했습니다.
J'ai écrit une poésie épique sur Yu Guan-sun, torturée et morte en prison à 17 ans sous l'occupation japonaise pour avoir revendiqué la libération de sa patrie comme Jeanne d'Arc en France. J'ai résisté par ce biais à l'oppression de la politique et du pouvoir. Dans un conte anti-coréen, un souverain tout-puissant énucléait un charpentier appelé Domi, un sujet bon et honnête dont la femme était combattue par le tyran. J'ai écrit une pièce de théâtre en vers inspirée de ce récit pour aborder le thème de la violence.
80년대 나의 고향인 광주에서 일어난 대규모의 시위에서 많은 시민과 학생들이 피 흘리며 죽어가는 것을 보면서 나는 국가와 인간에 대한 본질적인 회의와 언어의 무력증과 그런 것에 한동안 빠져 있었습니다. 문학에 대한 좌절을 뼈저리게 느끼기도 했었습니다.
Lors du grand soulèvement de Gwangju, en voyant mourir des citoyens et des étudiants dans un bain de sang, j'ai douté fondamentalement de l'État et de l'homme. J'ai éprouvé profondément l'impuissance du langage. J'ai désespéré de la littérature.
한국은 이러한 소용돌이 속에서도
peut-être que vous avez et j'ai erré un temps dans le monde comme une nomade.
한국은 이러한 소용돌이 속에서도 드디어 민주화와 경제적 풍요를 얻어냈습니다. 하지만 이러한 30년 동안의 압축 성장은 우리에게 어지러운 속도와 치열한 경쟁을 가져왔고 그것은 사회적 활력과 역동성의 한 단면이기도 했지만 인간 소외와 생명 경시와 공해 문제를 야기했습니다.
La Corée, malgré les bouleversements politiques, a obtenu un succès économique en accomplissant sa modernisation industrielle en 30 ans à peine. Cependant, une telle croissance accélérée a engendré dans cette société une vitesse vertigineuse et une compétition sans merci. Cela apparaissait comme une vitalité sociale et un dynamisme, mais finalement cela a provoqué l'aliénation, le mépris de la vie et la pollution.
어린 날 홀로 도시에 던져져서 극도의 외로움 속에 빠지는 것이 내가 시를 쓴 계기라면 분단과 군사 독재와 급격한 정치적 사회적 변혁이 나로 하여금 인간의 자유와 생명의 존엄에 깊이 눈뜨게 했다는 생각이 듭니다. 남성 중심의 가부장제와 유교적 전통을 몸으로 치르며 여성의 문제에 정면으로 부딪히기도 했습니다.
Si dans mon adolescence, la solitude extrême dont je souffrais dans une nouvelle ville m'a donné la motivation d'écrire des poèmes, l'environnement social où se sont succédé colonisation japonaise, guerre fratricide, division du pays, dictature militaire m'a fourni des sujets sensibles qui m'ont fait ouvrir les yeux sur la liberté de l'homme et la question de la vie. Vivant en tant que femme dans une société confucéenne, fortement marquée par la tradition patriarcale, j'ai dû lutter moi-même contre les absurdités du système social.
중국의 공자는 논어라는 저서에서 국가 불행 시인행이라는 말을 했습니다. 이렇게 많은 모순과 비극을 가진 그런 문제가 많은 나라와 사회에 사는 것이야말로 시인에게는 더없는 행운이라는 것이죠. 결국 나는 문제가 많은 한국에서 태어나 그 비옥한 많은 문제라는 것을 재료로 가진 것을 시로 쓰는 행운을 역설적으로 누린 그런 셈이 되었습니다.
Confucius a dit dans ses entretiens, si le pays est malheureux, les poètes sont heureux. Cela signifie que c'est une chance pour les poètes de vivre dans une société à problèmes, remplie de contradictions et d'événements tragiques. Autrement dit, née dans un pays plein de problèmes, je suis une poétesse qui jouit paradoxalement du bonheur d'intégrer ces matières fertiles dans sa poésie.
이것은 오늘날 한국의 작가들이 요래없이 활발하게 많은 작품을 생산해내고 있음을 통해서도 잘 알 수 있을 것 같습니다.
Ainsi, les écrivains coréens de nos jours créent activement un nombre considérable d'ouvrages sans précédent.
나는 그동안 많은 세계문학 작품들을 읽었고 또한 세계 곳곳을 여행했습니다. 나의 시에는 이렇게 세계 곳곳에서 만난 정신과 자연과 인간들이 함께 숨 쉬고 있습니다.
J'ai lu beaucoup d'œuvres littéraires du monde entier et j'ai voyagé partout dans le monde. Aussi dans ma poésie respirent tous ensemble des esprits, des natures et des êtres que j'ai rencontrés à travers le monde.
하지만 밀란 쿤데라가 체코를 떠나 프랑스에 귀화한 후에 세계적인 작가가 되고 곰브로비치가 조국 폴란드를 떠나 아르헨티나와 베를린에서 글을 쓰며 주변부 작가가 아닌 세계적인 작가가 되었다는 생각을 때때로 하게 됩니다. 한국어로 글을 쓰는 나 자신의 문학을 자꾸 객관적으로 생각해 보게 됩니다.
Il m'arrive parfois de penser à des écrivains comme Milan Kundera ou Witold Gombrowicz. Kundera a quitté la Tchécoslovaquie et est devenu un auteur de renommée internationale en écrivant en français. Quant à Gombrowicz, lui a quitté sa patrie, la Pologne, et est devenu un auteur célèbre en écrivant à Berlin et à Buenos Aires. Cela m'a amené à m'interroger sur le fait que le coréen, langue mineure, soit ma langue d'écriture.
나는 나의 배꼽을 들여다보면서 혼자 좋아하는 그런 작가가 되고 싶지 않습니다. 어린 날 슬피 울던 곡비처럼 우리 모두의 고통과 슬픔을 언어로 승화시키는 그런 작가이고 싶습니다.
Je ne voudrais en effet pas devenir une auteure qui se complaît en elle-même par une sorte de nombrilisme. Mais au contraire, comme la pleureuse de mon enfance, je voudrais être celle qui sublime par ses mots nos souffrances et notre tristesse commune.
저는 아침마다 컴퓨터를 열면 세계 시인들이 저에게 이메일을 보내옵니다. 하지만 이런 문명적 환경이 그 편리성과는 반대로 결국은 인간과 인간의 소통을 돕는 동시에 차단하기도 하는 그런 도구라는 것을 잘 압니다.
Chaque matin, lorsque j'ouvre mon ordinateur, je trouve beaucoup de mails envoyés par des écrivains du monde entier. Pourtant, je sais bien que cet environnement technique, en dépit de sa commodité apparente, coupe la communication entre les êtres autant qu'il la favorise.
이미 50여 년 전에 로베르토 무질이 지적한 대로 문학을 간단히 뉴스화하여 잠깐 화제 삼았다가 사라지게 하는 매스컴의 위험한 폐해도 잘 알고 있습니다. 오늘날 문학이 서 있는 자리에 이러한 여러 모순과 위험이 함께 도사리고 있습니다.
Je suis bien consciente également du danger des médias qui traitent la littérature comme un sujet d'actualité éphémère, ainsi que l'avait déjà fait remarquer Robert Musil il y a quelques 50 ans. Dans le monde littéraire se trouvent en effet cachées ces contradictions multiples et ces dangers.
이런 모든 정치적, 사회적 껍질을 벗고 오직 문학으로 자유로워지는 길은 무엇일까요?
Comment me débarrasser de cette gangue politique et sociale pour accéder enfin à la liberté par la seule littérature?
단 한 개밖에 없는 이 생명으로 줄강대가 외줄을 타듯이 오직 시를 쓰는 것일까요?
La voie serait-elle de n'écrire que des poèmes avec cette vie unique qui est la mienne, tel le funambule sur sa corde?
나는 오늘도 이렇게 미완을 향해 끝없이 다시 길을 떠나고 있습니다.
Aujourd'hui encore, je suis en route pour l'inachèvement.
그것이 바로 시인의 아름다운 완성임을 나는 믿고 있기 때문입니다.
Car je crois que c'est bien cela, le bel accomplissement du poète.
Merci.
Merci, madame. Merci beaucoup de conclure sur cette très belle formule de l'accomplissement du poète dans l'inachèvement. Peut-être que nous pourrons tout à l'heure écouter quelques-uns de vos poèmes, parce que nous en avons beaucoup parlé, peut-être que vous avez envie de les écouter. Je voudrais tout d'abord donner la parole peut-être au public, si vous avez des questions, suite à ce qui a été dit, afin de lancer peut-être le débat. Souhaitez-vous rebondir sur quelques-uns des thèmes qui ont été abordés, des questions surtout qui ont été soulevées? Et on le voit bien avec la présentation de Madame Moon, ce sont des questions. On voit bien la complexité de ce parcours dans votre présentation. Vous nous avez bien montré, en resituant dans votre parcours personnel, à travers votre parcours personnel, le contexte politique, historique, social, et de ce que veut dire écrire en Corée en étant femme. Alors, est-ce que vous auriez envie de complément ou de proposer des questions sur cette problématique?
Moi, en fait, j'aurais presque une question. Je ne sais pas si ça marche, vous entendez. Oui. Une question à Madame Moon. En fait, si elle pouvait préciser ce que ça voulait dire pour elle, l'inachèvement.
I write, therefore I am. 예, 미완성이 항상 가능, 그냥 가고 있는 그 자체가 완성이라는 걸로, 쓰고 있는 자체가 완성이라, 지금 현재 쓰고 있는 이 자체가 바로 완성을 의미하는 거라고. 내가 oui. 쓰지 않으면 그것은 아니라고.
Ah oui, elle veut dire par là que l'acte d'écrire même c'est vers donc l'achèvement, donc en quelque sorte c'est l'inachèvement. Oui, c'est l'acte d'écrire même. Si je n'écris pas, je n'existe pas.
Oui, l'acte d'écrire comme inachèvement.
Est-ce que c'est un rapport précis avec le fait justement d'essayer de conquérir une nouvelle place ou une nouvelle écriture au sein de la langue coréenne?
Oui. 문학의 산은 날마다 키가 자라버리기 때문에, 그러니까 시인과 등산가의 그 절정이 다르다고 저는 생각합니다. 등산가는 히말라야면 히말라야, 에베레스트면 에베레스트를 올라가면 그거는 정복이 됩니다. 그렇지만 시인의 산은 올라가면 그 산의 키가 스스로 자라버리기 때문에 항상 그 절정이 오르지 못합니다. 바로 그렇게 생각했기 때문에 미완성이 바로 나의 목적지이며 내가 가고 있는 자체가 완성이라고 얘기했던 것입니다.
Donc je pourrais comparer la tâche du poète avec la tâche de l'alpiniste. Donc pour le poète, même s'il escalade vers une montagne, la montagne se trouve toujours plus haut, tandis que pour un alpiniste, il peut conquérir Himalaya ou Everest. Alors donc, pour moi, l'inachèvement, c'est déjà
déjà aller vers quelque chose, et c'est ça.
C'est le fait d'aller vers et non oui. pas. C'est le but vers lequel je vais et non pas le résultat, puisqu'il n'y a pas de résultat à atteindre dans l'écriture.
Que 데뷔 이후에 46년 동안을 시의 목적지를 향해서 달려갔는데 오늘 아무리 쳐다봐도 제가 서 있는 자리에는 허공과 이슬이 전부입니다. 그런데 문제는 제가 지금 현재 보고 있는 이 허공과 이슬이 세상의 어떤 아름다운 건축물보다도 더 아름답게 보인다는 그 비극 속에 제 운명이 있는 것 같아요.
Ça fait déjà 46 ans hein, après mes débuts poétiques, hein, mais là où je me trouve, je trouve que là où je suis, je trouve que le vide est la rosée. Et cette tragédie, et c'est comme une architecture hein, de la tragédie, hein, quelque chose comme ça.
Que le lieu où elle se situe, où elle arrive, c'est un lieu qui est un lieu de vide et de rosée, où il n'y a que vide et rosée, et que ce territoire-là est plus beau que toute architecture humaine, que ce territoire de rosée, de vide, de néant, où elle arrive, ce territoire qu'elle a en quelque sorte découvert par l'écriture et par la vie, ce territoire donc de vide. Et je rappelle que la notion de solitude et de vide est très importante dans l'œuvre de Madame Moon. Ce territoire-là est plus beau que tout bâtiment,
oui,
voilà, ou toute construction.
Ça, oui, c'est plus beau que n'importe quelle architecture. Oui.
Merci beaucoup.
Est-ce que ce thème du vide, de la solitude, qui est aussi un thème très important dans notre littérature, à la fois coréenne, masculine et féminine aussi bien sûr, vous suscite des questions? On parle beaucoup de la solitude dans les sociétés développées, contemporaines, en Corée aussi, c'est un énorme problème. Souhaitez-vous peut-être faire des commentaires sur ce thème-là, ou préférez-vous que nous laissions la parole encore une fois à la poétesse et peut-être que nous lisions quelques poèmes avec Bruno Doucet? Et je ne veux pas vous ôter la parole si vous souhaitez parler.
Non. Commençons par la lecture en français.
Oui.
Oui. L'essaim. Le haut du corps dénudé, j'étreins à peau nue la machine froide. À l'intérieur des mamelons qui s'écrasent, l'angoisse pénètre avec l'odeur forte de l'éther. Les deux bras levés comme un soldat vaincu à la recherche d'un point noir dans une lune claire. Je passe une mammographie. Les seins bien emmaillotés dans le tissu de dentelle depuis l'adolescence. Tout le monde les a, mais seuls les seins de femme étant toujours source d'ennui, ces seins je les cachais profondément comme des fruits honteux. De même que notre mère porte à nos bouches la sagesse et l'amour avec ses seins, les collines de la grande nature fertile élèvent les enfants du monde. Heureusement, moi aussi j'en avais une paire. Mais longtemps ces seins ne m'ont pas appartenu vraiment, car ils appartenaient à l'homme aimé et aussi au bébé. Mais à présent, le haut du corps dénudé en étreignant à peau nue la machine froide, je prends conscience jusqu'à la moelle que ces seins m'appartiennent. En faisant radiographier mes tristes seins tombants à la recherche d'un point noir dans une lune claire.
Yuban, 윗옷 모두 벗기운 채 맨살로 차가운 기계를 끌어안는다. 찌그러지는 유두 속으로 공포가 독한 에테르 냄새로 파고든다. 폐잔병처럼 두 팔 들고 맑은 달 속에 흑점을 찾아 유방암 사진을 찍는다. 사춘기 때부터 레이스 헝겊 속에 꼭꼭 싸매놓은 유방. 누구에게나 있지만 항상 여자의 것만 문제가 되어 마치 수치스러운 과일이 달린 듯 깊이 숨겨왔던 유방. 우리의 어머니가 이를 통해 지혜와 사랑을 입에 넣어 주셨듯이 세상의 아이들을 키운 비옥한 대자연의 구름. 다행히 내게도 두 개나 있어 좋았지만 오랫동안 진정 나의 소유가 아니었다. 사랑하는 남자의 것이었고 또 아기의 것이었으니까. 하지만 나 지금 윗옷 모두 벗기운 채 맨살로 차가운 기계를 안고 서서 이 유방이 나의 것임을 뼈저리게 느낀다. 맑은 달 속에 흑점을 찾아 축 늘어진 슬픈 유방을 촬영하며.
Merci pour ce très beau poème qui nous parle très clairement de l'aliénation du corps et de la rencontre de ce corps par la douleur, par la maladie, et qui, quelque part, peut-être, nous éclaire sur cette aporie même du corps comme voie de la féminité ou voie de l'identité. C'est, je crois, une figure récurrente chez Madame Moon de nous mettre en face soit de ces contradictions, paradoxes, et parfois apories, qui nous amènent à aussi peut-être un petit peu baisser la garde par rapport aux attentes que pourrait nous donner la littérature et la modernité, comme le rappelait Madame Kim tout à l'heure. Un autre poème peut-être, Bruno ?
Oui. Où sont-elles disparues ? Mm-hmm. Hein ? Où sont-elles disparues, ces si nombreuses lycéennes ? Cette fille travaillait bien à l'école et excellait aussi dans ses activités personnelles. Sortie du lycée, elle a réussi sans peine au concours d'entrée à l'université, mais où est-elle maintenant ? Fait-elle bouillir la soupe aux pommes de terre ? Après l'avoir préparée pendant 3 heures avec l'os, s'exposant à la vapeur chaude devant la cuisinière à gaz, sera-t-elle heureuse le soir de regarder son mari avaler de bon appétit cette soupe pendant 15 minutes? Après avoir terminé la vaisselle, aide-t-elle ses enfants à faire leurs devoirs? Ou bien erre-t-elle encore dans la rue froide à la recherche d'une embauche dans une société? Dans un gymnase où l'on élit les candidats d'un parti politique, vêtus d'un hanbok, les décore-t-elle de rubans? Leur offre-t-elle des bouquets de fleurs? Embauchée par bonheur, assise dans un coin d'un grand bureau, elle répondra aimablement au téléphone et servira quelquefois le thé. Est-elle devenue femme d'un médecin, femme d'un professeur ou bien infirmière? Peut-être apprend-elle à chanter dans un centre culturel d'où elle part à la hâte avant que son mari rentre le soir. Où ont-elles disparu, ces si nombreuses lycéennes? Dans cette forêt de hauts buildings, ne devenant ni députée, ni ministre, ni médecin, ni professeur, ni femme d'affaires, ni cadre d'une société, rejetée de ci, de là, comme un gland tombé dans le repas du chien, erre-t-elle encore, sans pouvoir se faire valoir? Sans pouvoir prendre part au monde, grand et large, sont-elles confinées dans la cuisine et la chambre? Où ont-elles disparu, ces si nombreuses lycéennes?
그 많던 여학생들은 어디로 갔는가? 학창 시절 공부도 잘하고 특별 활동에도 뛰어나던 그녀. 여학교를 졸업하고 대학 입시에도 무난히 합격했는데 지금은 어디로 갔는가? 감자국을 끓이고 있을까? 사고를 넣고 3시간 동안 가스불 앞에서 더운 김을 쏘이며 감자국을 끓여 퇴근한 남편이 그 감자국을 15분 동안 맛있게 먹어 치우는 것을 행복하게 바라보고 있을까? 아니면 아직도 입사원서를 들고 추운 거리를 헤매고 있을까? 당 후보를 뽑는 체육관에서 한복을 입고 리본을 달아주고 있을까? 꽃다발 증정을 하고 있을까? 다행히 취직해 큰 사무실 한 켠에 의자를 두고 친절하게 전화를 받고 가끔 찻잔을 나르겠지? 의사 부인, 교수 부인, 간호사도 됐을 거야. 문화센터에서 노래를 배우고 있을지도 몰라. 그리고는 남편이 귀가하기 전 허겁지겁 집으로 돌아갈지도. 그 많던 여학생들은 어디로 갔을까? 저 높은 빌딩의 숲, 국회의원도 장관도 의사도 교수도 사업가도 회사원도 되지 못하고 개밥의 도토리처럼 이리저리 밀쳐져서 아직도 생것으로 굴러다닐까? 크고 넓은 세상에 끼지 못하고 부엌과 안방에 갇혀 있을까? 그 많던 여학생들은 어디로 갔는가?
Une question importante de savoir effectivement ce que sont devenus ces jeunes lycéennes et de savoir où ont disparu ces désirs évanouis. Alors là, je rebondis un petit peu sur la présentation de Jean-Claude tout à l'heure et avec cette question des désirs et de la nouvelle économie des désirs dans la société contemporaine. J'aurais aimé poser la question à la fois à Mme Moon et à Jean-Claude pour rebondir sur la question qui était passionnante, qu'on n'a pas pu vraiment développer par manque de temps, mais de l'ennemi, la figure de l'ennemi. Vous parliez de l'ennemi, bon, d'une manière bien sûr qui était beaucoup plus générale et abstraite que le seul ennemi intérieur du couple, donc l'altérité dans le couple, donc autour du clivage homme-femme. Mais on peut peut-être y revenir si vous voulez bien. Est-ce que pour vous cette figure de l'ennemi, c'est-à-dire du point de vue féminin, l'homme comme l'ennemi, qui est littéralement exprimé par Madame Moon, puisque dans un poème terrible où elle parle de son mari, elle dit que c'est celui qui lui a le plus ou le mieux appris à faire la guerre, et où il est littéralement décrit comme un ennemi qu'on aime, un ennemi avec qui on partage des choses essentielles, c'est celui qui, de tous les hommes de la terre, qui aime le plus mon enfant. Donc une manière intéressante de définir le mari, n'est-ce pas, ou la personne aimée comme celle qui a en commun cet enfant. Enfin, cet amour pour cet enfant. Alors, Jean-Claude, est-ce que vous pourriez peut-être livrer votre sentiment et vos réflexions concernant cet ennemi intérieur au couple à ce moment-là? Est-ce que vous pensez trouver dans les lectures des auteurs, des jeunes auteurs coréens sur ce sujet? Est-ce que vous pensez qu'on va vers une réconciliation, comme je le proposais ou le suggérais tout à l'heure, une réconciliation où l'homme pourrait redevenir un compagnon et un complément, ou est-ce qu'on est toujours dans cette relation finalement très polémique?
En tout cas, ce qu'il apparaît en Corée, c'est effectivement cette question de la réconciliation avec un tout nouveau rôle de la part des maris et de la part des jeunes papas. Il y a de nombreuses associations maintenant qui regroupent des pères, c'est assez étonnant. Et à l'intérieur du couple, effectivement, les questions ne se posent plus de la même manière, même si quand même les traces de la tradition sont encore présentes, y compris dans les jeunes couples. Mais quand on parle avec des auteurs qui ont 30-35 ans, l'homme n'est certainement plus considéré comme un ennemi. Cela dit, on vient de terminer un documentaire sur Hanigyong, qu'on publie le mois prochain, qui sort le mois prochain, et le documentaire est en ligne sur YouTube. Et en retravaillant sur ces textes, elle disait, lorsqu'elle est venue nous rencontrer à Aix-en-Provence, qu'au fond, il fallait... globalement, on ne pouvait pas faire confiance à l'homme à l'intérieur du couple, quand bien même serait-elle, elle, heureuse avec son statut et ses enfants. Et quelque chose m'a frappé lorsqu'elle a dit « Au fond, il faut priver l'homme d'accéder au mystère féminin. » Que loin d'une revanche ou d'une lutte à mener contre l'autre, il faut en fait le priver de ce qui fait l'objet, en quelque sorte, de sa propre agressivité à l'intérieur du couple. Alors j'ai été stupéfait parce qu'elle n'est pas toute jeune, mais elle n'est pas très vieille non plus.
Elle est née en 1959, Nigyong, si
c'est
je ne me trompe pas.
C'est ça, la 52.
Donc elle n'appartient pas véritablement à la génération jeune dont on parlait tout à l'heure.
Non, c'est pour ça que je fais référence à elle, parce que je n'ai pas trouvé chez les jeunes des positions aussi fermes, aussi radicales, tranchées, oui. Aussi radicales. Oui,
tout à fait. Alors je me tourne vers Madame Moon, justement. Vous parlez souvent de votre rapport à votre mari. On le voit évoluer puisque le recueil est disposé de manière chronologique. Est-ce que vous pourriez nous dire si, de votre côté, vous voyez une réconciliation possible, et quelles seraient les modalités de cette réconciliation? Je ne parle pas simplement au sein de, bien sûr, de votre expérience personnelle, mais en général entre l'homme et la femme coréen, est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers cette réconciliation, puisque c'est un petit peu le message que vous portez au cours de votre œuvre, et quelles seraient surtout les modalités que vous verriez? Vous apportez certaines réponses, je le sais, et j'aurais aimé que vous nous les formuliez. Et je crois qu'après, on arrêtera certainement pour rester dans les temps de la rencontre de ce soir.
Gatekeeper들은 남자고 여자들은 그걸 통과하기가 너무나 어렵습니다. 하나 예를 들면 모든 독자는 여성이고 모든 심사위원은 남성입니다. 그래서 겉만 굉장히 발달해 있는 것 같고요. 그 얘기 먼저 하십시오. 독자는 여자고. 네.
Alors la société coréenne change énormément de nos jours, hein, et les femmes sont très actives par rapport à autrefois, effectivement. Mais finalement, si l'électorat hein, se limite, le lectorat est essentiellement les femmes. En tout cas, le jury c'est toujours les hommes. Donc la classe dominante c'est quand même toujours les hommes.
근데 이것은 꼭 저 사회나 남성의 잘못은 아니고 여성 스스로도 소극적이고 비겁하고 안주하고 이런 여성의 잘못도 반은 저지른 잘못이라고 저는 생각합니다.
Mais de toute façon, tout cela, c'est pas seulement la faute des hommes, même les femmes sont fautives là-dedans parce que elles se comportent de manière lâche ou toujours elles cherchent la facilité, elles se complaisent. Oui, dans ce.
그래서 처음에는 제가 말하자면 여성은 가사일과 아이를 기르는 집안의 존재이고 한국에는 아내라는 말이 있는데 그 말은 아내라는 말은 집안의 해라는 뜻입니다. 그래서 집안의 존재이고 남성은 사회적인 일을 맡는 존재인 것이 제가 등단한 70년대까지의 한국 남녀 역할의 전형적인 모습이었습니다. 남편이 어떻게 했다고? 남편은 밖에서 일하고 아내는 집에서 일하고 가사 관리와 육아를 맡고
Donc les femmes, leur rôle se confinait toujours au travail domestique. Et puis on désigne les femmes au nom de Anhe, qui veut dire le soleil du foyer. Et donc là, les hommes ont toujours ce rôle hein, du dehors. Et jusqu'aux années 1970.
대학 진학률이 제가 70년대에는 3%의 여성이 대학을 갔었고요. 지금 현재는 83%의 남녀가 똑같은 비율로 대학에 진학하고 있습니다.
Dans les années 70, il n'y avait que 3% des jeunes filles qui allaient à l'université, tandis que maintenant, il y a 83% des jeunes filles vont à l'université exactement comme les garçons.
아무튼 20년 전 제가 처음으로 페미니즘 시를 강렬하게 쓸 때는 그런 역할들, 사회의 불합리에 대한 강렬한 목청을 많이 냈었고 오늘 쓴 것 중에도 그 목청이 포함되어 있습니다.
Alors donc il y a 20 ans qu'est-ce que c'était déjà? Il y a 20 ans le rôle. Ah oui. Oui. J'élevais vraiment ma voix hein, contre les injustices sociales. Voilà. Hein.
그런데 언제까지나 이렇게 역할에 대한 공격만 하는 것은 바람직한 방법이 아니라는 생각이 그리고 여성학이며 어떤 사회 발전에 그렇게 공격 역할에 대한 서로의 공격만 하는 것은 답답하고 제가 원하는 방식이 아니어서
새로운 어떤 방식을 제시할까 해서 한 20년 전에 남자를 위하여라는 시를 통해서 이 시대에 살고 있는 외로운 남자들 또 산업 어떤 산업사회나 자본주의 사회가 남성성 중에 우리가 왜 무시해버린 그런 남성성들의 그 장점들을 부추겨주고 노래해주는 그런 러브레터 같은 시를 남자를 위하여라는 시집을 통해서 제가 보냈었습니다.
Ah oui, donc moi je pense que de toute façon, entre les hommes et les femmes, s'attaquer tout le temps, hein, c'est pas vraiment une solution idéale. Et donc, une des modalités que j'ai voulu proposer, c'était de penser aussi aux hommes. Et donc j'ai écrit même un recueil de poésie intitulé « Pour les hommes ». Là-dedans, je voulais consoler même les hommes esselés. Et puis, je voulais quand même célébrer, en quelque sorte, cette identité masculine, un peu comme un poème d'amour adressé aux hommes.
그런데 남자들은 여자가 가진 요소 중에
je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que c'est une bonne conclusion de
아니, 참 중요한 포인트. 이건 해야 됩니다.
여자가 가진 요소 et on terminera sur ça comme une conclusion.
여자가 가진 요소 중에 상당히 많이 무시하면서 오직 하나 어머니 모성성이라는 것만 신성화합니다. 그것도 남성들이 기른 하나의 굴레라고 저는 생각합니다. 그래서 제 시집이 지금 찬밥을 먹는 사람이고 아까 언급했던 신경숙의 엄마를 부탁해 같은 것들이 어머니만 너무 강조하는데 이것도 사실은 어머니가 과연 무엇인가 이렇게 인간의 사랑이 계속 희생으로만 치르는 사랑을 우리는 어머니라는 이름으로 감수해야 하는가라는 것에 대해서 저는 지금 고민하고 있습니다.
Donc elle se pose vraiment la question sur le sens de la maternité hein, et puis elle pense que la maternité est un peu trop sublimée, surtout par les hommes. Et comme on voit même dans le roman de Shin Kyung-suk, « Prends soin de maman » et tout ça, et la maternité toujours en relation avec le sacrifice, c'est toujours trop célébré. Et là, en tant que femme, et je me pose beaucoup de questions sur ce problème-là.
Très bien. Merci beaucoup. Quelques vers pour finir la rencontre qui résument le propos, j'espère, sur une note positive. Des vers de Madame Moon, traduits par Madame Kim. Soleil et lune sont haut levés ensemble sur l'horizon. La réponse la plus paisible et la plus chaleureuse sur Terre, espérons que cette vision un peu taoïste du monde nous réconciliera. Merci beaucoup pour avoir assisté à cette table ronde ce soir et merci à nos intervenants.
Merci à tous d'être venus. Nous vous informons que notre prochaine manifestation aura lieu le 17 avril au soir. Il s'agira d'une conférence sur l'alternance démocratique au Sénégal, dont vous voyez l'affiche devant vous. Voilà, merci, à bientôt.
Des ouvrages, si vous le souhaitez, et demandez à Madame Moon une dédicace. Elle repart demain matin pour Séoul. Voilà.